Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Build Yourself. Avant de vous laisser avec l'échange très intéressant que j'ai eu avec Lucie, je voulais vous mentionner mon programme Magnétique Entrepreneur qui vise à vous enseigner à assumer votre énergie féminine et obtenir des résultats pour autant, où je vais vous accompagner pour trouver votre flow, pour mieux vivre votre activité au quotidien et faire de votre vie votre priorité. Et faire en sorte que votre business s'adapte autour de ça. Je vais également vous enseigner comment gérer votre business avec une énergie féminine, comment assumer votre leadership et gagner en confiance dans tout ce que vous faites, et autour de tout ça, créer une connexion et une confiance pour fidéliser vos abonnés. C'est pour les entrepreneurs qui ont envie de créer un impact sur le web sans passer leur temps connecté à leur smartphone. Toutes les infos sont dans les notes de cet épisode.
Salut Lucie.
Salut Safia.
Comment tu vas?
Bien et toi?
Mais très bien. Est-ce que tu veux bien me... Alors moi je sais ce que tu fais, mais mon audience pas forcément. Est-ce que tu veux bien en quelques lignes m'expliquer quel est ton job aujourd'hui?
Alors je suis... J'ai créé une formation en rédaction web. Donc aujourd'hui mon rôle c'est plutôt de m'occuper de plusieurs entreprises que j'ai créées. La principale étant mon organisme de formation en rédaction web. Donc, je forme des personnes en reconversion professionnelle au métier de rédacteur et rédactrice web, c'est-à-dire écrire pour les entreprises sur Internet. Donc, ça, c'est vraiment ma passion, le référencement naturel, le copywriting et le social media management, donc tout ce qui est autour de l'écriture digitale. Et à côté de ça, j'ai aussi un média féministe culturel qui s'appelle cellequi.com avec un podcast. Et j'ai également créé une plateforme de rédacteurs web qui s'appelle laredacduweb.fr. Mon site principal, bien sûr, c'est formationredactionweb.com. Et j'ai la chaîne YouTube, le podcast La Pause Rédac, etc. Je fais plusieurs choses et du coup, j'ai une équipe qui travaille avec moi parce que sinon, ce ne serait pas possible. Et donc, voilà ce que je fais professionnellement.
Ok. Et du coup, comment tu as commencé sur le web? Qu'est-ce qui t'a donné envie de gagner de l'argent sur Internet, en fait?
J'avais pas prévu de gagner de l'argent sur Internet. J'étais agent de voyage à Fort-de-France quand j'ai découvert la rédaction web. J'avais un conjoint, le père de mes filles, qui à l'époque gagnait beaucoup plus que moi. Il était cadre sup et on avait un rythme de vie assez soutenu. Et moi, j'arrivais pas du tout à suivre parce que j'avais un SMIC et je voulais impérativement participer à hauteur de nos dépenses communes. Et donc, j'ai tapé un soir désespéré, comment arrondir ses fins de mois sur Google, et Google m'a amené sur un site qui présentait une plateforme qui s'appelle TextBroker, qui existe encore aujourd'hui, sur laquelle on pouvait écrire sur le web pour gagner sa vie. Donc j'ai écrit mes premiers textes, j'ai gagné mes premiers euros, mes premiers centimes sur des plateformes. Et puis ensuite, ça m'a amené à rencontrer des grands entrepreneurs comme Olivier Roland, Antoine Pétavin, et puis après Stan Leloup, etc. J'ai travaillé pour une partie d'entre eux. Et donc ça m'a permis de mettre vraiment un pied dans l'entrepreneuriat et de découvrir qu'il était possible de vivre d'un métier sur Internet, déjà de la rédaction web dans un premier temps, et j'ai fait ça de la rédaction web pure, j'en ai fait pendant plusieurs années.
Est-ce que tu as toujours eu un attrait pour l'écriture ?
Toujours. Toujours, dès que j'ai su écrire, j'ai commencé à faire des carnets, des BD, des histoires pour mes parents. Je dois avoir une dizaine de carnets secrets, de carnets pour mes filles, de carnets de voyage, même plus que ça. Oui, j'ai toujours écrit. J'écris tous les jours.
Ok, c'est intéressant ça. Mais du coup, alors, tu t'es lancée dans la rédaction web et il me semble qu'à côté, tu avais aussi un blog, en fait, une activité de blogueuse.
Non.
Non ?
Non, quand j'ai commencé la rédaction web, j'étais agent de voyage. Ensuite, donc j'ai commencé vraiment en 2012, j'ai quitté mon emploi d'agent de voyage quand j'ai déménagé de la Martinique à la Nouvelle-Calédonie en 2015. J'ai créé mon entreprise de rédaction web où j'ai travaillé comme rédactrice web du coup à mon compte pendant 2 ans. Avant, je le faisais pour arrondir mes fins de mois, mais vraiment à mon compte. Et puis ensuite, j'ai créé mon blog sur la rédaction web en 2017 et ma formation en 2018.
Ouais, le blog, il est arrivé après, au final, quand ton activité fonctionnait bien. Et je suppose que tu t'es dit, j'ai envie de partager un peu de mon métier et potentiellement le faire découvrir à des personnes chez qui ça pourrait aussi être un attrait de rédiger des textes.
Tous les gens me posaient tellement de questions sur ce métier, que ce soit à l'école quand j'amenais mes enfants, les amis, la famille quand je rentrais en France. Personne comprenait ce que je faisais et en même temps, moi, j'avais l'impression d'être la reine du monde parce que je pouvais gérer mes journées comme je le voulais, je pouvais choisir mes clients, j'écrivais sur des sujets vraiment parfois rigolos. En tout cas, c'était toujours intéressant et enrichissant. J'apprenais énormément de choses et comme je suis assez boulimique d'apprentissage, ça me convenait très bien. Et j'avais vraiment... Dès que je rencontrais quelqu'un, je lui disais « mais tu devrais être rédacteur web ». Dès que je rencontrais quelqu'un d'un peu curieux, qui voulait travailler à domicile, etc. Et voilà, j'ai tapé dans la fourmilière et aujourd'hui, on a plus de 2500 élèves en 3 ans et demi.
Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Tu vivais déjà de ton activité, du coup, quand t'as lancé ce blog ?
Oui, largement. Ouais, oui.
Ok. Donc, finalement, le entre guillemets train de vie que tu voulais réussir à avoir et à gérer, tu l'as eu après quelques années, quoi.
Oui, en fait, donc du jour où je me suis mise à Fort-de-France devant mon ordinateur pour chercher comment arrondir mes fins de mois, au moment où j'ai créé ma formation, je suis passée du SMIC au double du salaire de mon compagnon qui était cadre sup et qui gérait... voilà, qui était directeur d'une équipe de 30 personnes et voilà, je gagnais en tant que rédactrice web 2 fois plus que lui.
Comment tu t'es sentie en fait dans le fait de créer ton propre métier et ensuite de gagner plus que ton mari ? Est-ce que ça a été une fierté ? Est-ce que t'as culpabilisé ? Tu vois, comment tu t'es sentie en tant que femme qui gagne plus que son conjoint ?
Ah, je suis très contente que tu me poses cette question parce que c'est la première fois qu'on me la pose et que j'y pensais ce matin encore. Je pense que ça a été une des raisons de notre séparation. Il a très mal pris. J'espère qu'il n'écoutera pas ce podcast, mais je pense pas qu'il m'écoute aujourd'hui. Il a très mal vécu le fait que je gagne plus que lui, je pense. Il avait envie d'être le chef de famille. Il y avait aussi une grande liberté à plusieurs niveaux. Je pouvais gérer mes journées comme je le voulais. Je pouvais prendre mes vacances quand je le voulais. Je pouvais... décider à quel moment je travaillais, à quel moment je travaillais pas. C'était moi qui pouvais m'occuper des enfants quand la crèche appelait ou l'école. Et donc, lui, il a eu ce sentiment, un sentiment, je pense, d'injustice. Mmh. Ça faisait 15 ans qu'il travaillait pour la même boîte, il avait dû gravir les échelons, etc. Et ça l'a frustré. Il a passé des nuits à chercher des solutions sur Internet pour essayer de trouver des idées. Et au final, sa réaction a été de me dire que c'était pas mérité et que tout était allé trop vite et que c'était pas normal. Et en fait, je pense que cette réaction, je vais pas lui en vouloir pour ça. Je pense qu'en fait, cette réaction a fait que j'ai tout le temps eu besoin de me justifier dans tout ce que j'ai fait par la suite et que j'ai eu une telle exigence avec moi-même pour lui montrer que je méritais ce succès, que je me suis lancée corps et âme encore plus dans le travail, surtout une fois séparée. Et finalement, j'ai envie de lui dire merci parce qu'aujourd'hui, on s'entend bien. Je comprends que cette période ait été difficile pour lui, peut-être. On a une séparation très compliquée, difficile, mais aujourd'hui ça se passe bien, c'est le plus important et on est ressorti de tout ça indemne.
Est-ce qu'aujourd'hui t'as trouvé quelqu'un qui accepte ta position de femme puissante, autonome et responsable ?
Oui, alors j'ai quelqu'un qui accepte tout ça, mais ceux qui me suivent le comprendront certainement. Je suis tellement passionnée, en fait, je fais beaucoup de musique, je lis beaucoup, je fais du sport, j'adore mon métier, je passe des heures en ligne avec mon équipe tous les jours et en fait j'ai pas le temps, c'est incroyable à dire, mais j'ai pas le temps d'avoir quelqu'un à temps plein dans ma vie. Donc je suis très peu disponible pour mon compagnon et c'est un choix aussi. À ce moment-là de ma vie, l'amour n'est pas ma priorité et je pense que peu de gens osent le dire, mais il se trouve que c'est mon cas. C'est pas un manque d'amour, hein, je l'aime beaucoup, mais c'est, l'amour n'est pas ma priorité du moment.
Je suis contente que tu dises ça. On a tellement cette image de la femme qui doit, celle qui est célibataire, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Puis tu sais, quand tu regardes des films ou des séries, la femme qui réussit professionnellement, elle est méchante. Elle délaisse les autres. On a cette image hyper négative. Je suis contente que tu viennes pour partager ton histoire à toi, échanger un peu ce speech qu'on retrouve un peu partout, tu vois.
Mais tu sais, j'ai l'impression que autour de moi, on me dit « Mais pourquoi tu profites pas de l'amour ? Pourquoi tu passes pas plus de temps avec lui ?» Et c'est vrai que j'ai aucun reproche à lui faire. Et ça, peut-être qu'à un autre moment de ma vie, ça serait une histoire vraiment passionnelle, extraordinaire, etc. Mais, comme je te dis, c'est pas ma priorité. Et ça, j'ai l'impression vraiment que le commun des mortels a du mal à l'accepter. Une femme de 37 ans qui ne fait pas de l'amour sa priorité, ça choque, c'est la première fois que j'en parle. Mais je pense que ça choque, ouais. Mais en tout cas, ça me libère énormément de temps pour faire mes projets, et c'est pas que je me noie dans mes projets, on va pouvoir faire de la psychanalyse, c'est juste que j'aime ce que je fais et que je sais que c'est une période de ma vie.
Carrément. Alors du coup, puisque tu nous parles de tes différents projets, pourquoi initialement, bah, je pense que la réponse est assez évidente, mais à quel moment tu t'es dit « je vais créer une formation pour enseigner la rédaction web » ? Ça a été ta première formation ?
Oui, ça a été ma première formation, donc ça faisait... mon blog avait à peine 6 mois quand j'ai lancé ma formation et ça a été un gros succès puisque j'ai eu quand même 38 inscrits sur une formation qui avait un sacré coût. Je m'étais dit que si j'en vendais, je crois, une ou deux, c'était bon. J'avais calculé que, voilà, je pourrais tenir 6 mois. Et du coup, non, 38. Et alors,
Tu l'as vendu sur ta liste d'email, tu vois, sur ton blog ?
Ok. J'avais 400 ou 500 abonnés.
Ok, super. C'est intéressant d'avoir un peu les coulisses. Comme quoi, on n'a pas besoin d'avoir une liste énorme pour faire un super chiffre d'affaires.
Non, et pas beaucoup de temps, parce que je ne sais pas si ce serait encore possible aujourd'hui, c'était à peine 4 ans, mais je veux dire, je me suis mise à fond sur le blog en septembre et j'ai lancé la formation en janvier.
Ok.
Donc, pourquoi cette formation ? Parce que j'étais enceinte à l'époque de ma deuxième fille, j'avais beaucoup trop d'élèves, beaucoup trop de clients, et les clients voulaient me demander si je connaissais des rédacteurs web qui accepteraient de prendre l'émission, etc. Et puis j'ai commencé à vouloir former des gens autour de moi, et je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup de temps, et donc je me suis dit, c'est pas compliqué, même si je suis littéraire, hein, les petites équations, beaucoup, beaucoup de demandes, très peu d'offres et de rédacteurs formés, donc c'est clair et net qu'il y a quelque chose à faire, et j'avais raison, pour le coup.
Bah oui, je pense que... Alors... Il doit sûrement y avoir d'autres formations sur le sujet, mais la tienne domine clairement le marché. Est-ce que tu as recruté quelqu'un pour t'aider dès que tu as eu tes 38 élèves et tu t'es dit c'est trop, je vais pas réussir à gérer toute seule, ou est-ce que pendant un temps tu as fait un peu tu as eu toutes les casquettes si tu veux?
Non, j'ai effectivement délégué immédiatement, et je pense que c'est un des éléments, si ce n'est l'élément clé de la réussite de l'entreprise aujourd'hui, des entreprises, c'est que immédiatement j'ai réinvesti dans de l'aide. Donc j'ai fait appel à Marie DiMaggio à l'époque, qui était la seule élève qui était en Nouvelle-Calédonie. Du coup, je l'ai rencontrée, elle m'a dit qu'elle faisait du montage vidéo, etc. Et c'était une élève Origami 1. Aujourd'hui, Marie, elle est devenue assistante virtuelle, elle fait de la formation pour les assistantes virtuelles, d'ailleurs de très bonne qualité, où elle accompagne les gens qui veulent se reconvertir dans ce métier, et elle m'a accompagnée pendant plus de 2 ans. Ça a été mon bras droit. Et ensuite, on a commencé à repérer des élèves, souvent des élèves, qui étaient très doués en rédaction web et qui ont intégré mon équipe comme... je ne vais pas les citer, mais voilà. Et aujourd'hui, j'ai une équipe vraiment de... C'est des cerveaux, c'est des créatifs, c'est un pouvoir incroyable que j'ai dans mon équipe d'avoir toutes ces personnes qui sont si motivées, si compétentes et créatives.
T'as combien de personnes aujourd'hui dans ton équipe à peu près ?
Alors, si on compte les on a beaucoup de freelance, j'ai des salariés aussi, mais on est, il me semble, une trentaine.
Ok, oui, c'est pas mal. Comment t'as appris, en fait, à prendre cette position de dirigeante et de chef d'entreprise et de gérer autant de personnes ?
Alors, ça a été une ascension hiérarchique. Si on peut parler d'hiérarchie, parce que, enfin, comme tu peux l'imaginer, je suis pas la boss relou. Voilà, donc je suis montée en besoin en management très rapidement, puisque ça a grossi, t'imagines, on a recruté, il y a des mois où on a recruté 5 personnes, quoi. Donc, ça m'a donné un petit peu le vertige, et j'ai pris un coach de dirigeant à Nouméa, un gars qui n'est pas du tout sur le web, etc. J'avais besoin d'un gars qui avait de la bouteille, c'est un gars qui a plein d'entreprises en Nouvelle-Calédonie, un super réseau. Et ça m'a fait énormément de bien. J'ai fait plusieurs séances avec lui, il m'a accompagnée, il m'a conseillée. Et aujourd'hui, je suis une formation qui s'appelle Business Strategy avec HEC. C'est une formation en ligne. On est tout un groupe, on est une soixantaine. Et donc, ça dure six mois la formation. Donc là, ça me fait beaucoup de bien de suivre cette formation de dirigeant. Et aujourd'hui, en à peine un an, je me sens beaucoup plus à l'aise. L'année dernière, j'avais des insomnies, je ressentais vraiment un vertige d'avoir, parce que j'ai 5 entreprises, d'avoir toutes ces responsabilités, même les élèves aussi qui attendent énormément de cette reconversion professionnelle. Pour moi, c'est une grosse responsabilité et c'est lourd. Mais aujourd'hui, de m'être formée et d'avoir cette équipe qui est aussi soudée et aussi compétente, ça m'a changé la vie. J'ai notamment une directrice de l'organisme de formation en CDI. Et ça me fait beaucoup de bien psychologiquement, tu vois.
J'imagine. Alors, je ne suis pas organisme de formation, mais j'entends dire à quel point c'est quelque chose de très lourd. Donc, j'imagine que ça doit t'enlever une bonne partie de charge mentale pour le coup. Ça représente combien en pourcentage d'élèves les gens qui prennent, c'est le CPF, il me semble, qui utilisent leur CPF pour rejoindre ta formation?
Alors nous, ça doit être, je dirais, on doit être entre autour de 50% en fait.
Oui, quand même. Oui.
Je pense. Par contre, nous, on est très mal référencés sur le CPF et tout ça. Donc c'est vraiment mon écosystème qui renvoie les gens vers la formation CPF.
Ok, mais justement, parlons de stratégie de visibilité. Alors, j'ai cru comprendre, corrige-moi si je me trompe, que tu n'es pas spécialement... t'es pas très réseaux sociaux, genre c'est pas ta cam, on va dire les choses très simplement, mais que t'aimes bien YouTube et bon, que tu as un podcast aussi depuis peu, mais que ton dada à toi, c'était le blog, forcément, et YouTube.
C'est ça, mais je suis quand même présente sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Okay. En fait, j'utilise vraiment la force, la spécificité de chaque réseau social. Sur LinkedIn, quand même, je suis suivie, j'ai vu ça, j'étais assez étonnée, par 6 000 personnes. Donc pour un réseau comme LinkedIn, voilà, ça fait plaisir. Je sais pas d'où viennent ces gens, mais voilà, je trouve que je peux faire des posts un petit peu plus engagés, un petit peu plus professionnels. Facebook, c'est la cour de récré.
Ouais.
Et puis YouTube, alors là, je m'éclate vraiment. C'est mon canal de communication préféré. Le blog, c'est pratiquement plus moi du tout. Ça doit faire plus d'un an que j'ai pas écrit dessus. Ah si, j'ai fait un article sur Facebook récemment, quand il y a eu la grosse panne, c'est tout. Mais j'aimerais vraiment reprendre la plume. Ça dépend aussi de comment je réussis à déléguer. Mais au niveau de la stratégie, notre spécificité, c'est qu'on ne fait pas du tout de publicité payante.
D'accord.
Tout est organique.
C'est génial. J'aime entendre ça. J'aime beaucoup entendre ça. Parce que c'est vrai que... Enfin, ok, c'est un peu... Alors certes, c'est hyper utile. C'est aussi la solution de facilité. Et je pense que tu cibles mieux tes clients quand tu es dans une démarche de visibilité organique au final. Tu vois, les gens qui arrivent à toi, ils ne sont pas arrivés là par hasard... parce que t'es allé les chercher, ils ont été attirés par ton contenu, ils ont vu une vidéo YouTube ou un truc, et ils sont arrivés jusqu'à toi, et ensuite ils ont eu envie d'aller explorer un peu tout ce que tu proposes, quoi.
Exactement, c'est de l'inbound marketing. La publicité, j'ai toujours vu ça comme mon joker, et j'ai plusieurs personnes qui m'ont démarché en me disant « on va t'aider à faire de la pub YouTube, etc. » Je leur dis « je ferai de la pub YouTube le jour où il y aura vraiment un danger, mais à l'heure actuelle... l'écosystème fonctionne et puis le bouche à oreille aussi, on a les cousins d'un tel, la mère, on a plusieurs mères et filles, mari et femme qui ont pris tous les deux la formation, donc des frères et sœurs, voilà, ça marche, même le bouche à oreille, et comme les élèves sont vraiment des ambassadeurs, plus le temps passe et plus on a de visibilité comme ça en fait aussi.
Alors du coup, est-ce qu'aujourd'hui, YouTube, c'est ton support de création de contenu principal ?
Non, puisqu'on produit énormément sur le blog et on a aussi le podcast, La Pause Rédac, où ben, je suis écoutée. Les gens mettent très peu de commentaires et de notes, mais ils l'écoutent puisqu'ils m'en parlent. Il y en a beaucoup qui m'en parlent. Donc c'est écouté. Puis je vois les chiffres aussi,
ouais.
Des statistiques. Donc oui, c'est un peu dispatché. Il y a aussi, mine de rien, beaucoup de gens qui m'écrivent sur Instagram, même si j'ai que 6000 abonnés, je crois, 5800.
Et comment tu t'organises pour la création de contenu qui où on a besoin de toi, en fait? Genre YouTube, c'est toi. Le podcast, c'est toi. Comment tu gères tout ça au quotidien, en plus de la gestion de tes différents business?
Alors, les vidéos YouTube, je me fais des sessions, par exemple, toutes les deux semaines, où je vais tourner plein de vidéos à la suite. Et après, je l'envoie à la société qui gère mes montages. Et ensuite, on planifie, on publie. Donc, finalement, tu vois, ça va être deux jours par mois pour la chaîne YouTube. Pour le podcast, c'est quand il y a un sujet qui m'inspire, je vais me mettre soit à écrire un script, soit je vais avoir... envie d'interviewer quelqu'un, donc je vais appeler quelqu'un et puis on va faire ça. Le problème du podcast, c'est que pour l'instant, c'est moi qui fais les montages et là, ça me dérange beaucoup. D'ailleurs, je lance un appel.
Je cherche quelqu'un, si tu veux.
Ah, génial. Voilà.
Effectivement, et c'est puis... vrai que c'est du temps, le montage des épisodes.
Oui, voilà. Puis moi, ma valeur, elle est vraiment pas dans du montage audio. Enfin, je crois qu'elle est ailleurs. Ah oui, on a aussi une agence de stratégie digitale. J'oublie tout le temps d'en parler, mais on a une agence de consulting en plus où on accompagne des entreprises dans leur stratégie digitale globale.
Ok.
Avec mon associé, ouais.
Et tu as aussi, alors, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la formation rédaction web, mais effectivement, du coup, tu as cette agence. Tu as aussi un webzine.
Oui.
Alors, est-ce que tu le considères comme un business ? Genre, c'est aussi une source de revenus ou c'est un projet plaisir ? Avant toute chose.
C'est une source de revenus négatif.
D'accord.
C'est-à-dire que Selkio, c'est un site sur lequel j'investis. Je vais dire que c'est un investissement depuis maintenant plus d'un an. C'est un puits sans fond. J'ai carrément une salariée dessus, une responsable éditoriale et une journaliste. Donc, okay. Je te laisse imaginer le budget.
Ouais.
Et ça, c'est tous les mois et ça ne nous rapporte rien. Je crois que le mois dernier, on a gagné 1,49€. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas mettre de pub sur Selkios. Selkios, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Donc, c'est un média féministe culturel féministe dans le sens où on met des femmes en avant. On écrit des biographies, mais aussi on parle de culture, d'actualité culturelle, on peut parler d'expos, de plein de choses en fait sur Selkios. Et je trouve que si on avait mis des marques en avant, ça aurait cassé l'idée du magazine libre. D'ailleurs, c'est pas un magazine, parce que j'ai appris récemment que magazine, c'est des magasins qui font leur pub sur des formats, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai changé le nom récemment. Je l'ai appelé le média culturel, parce que c'est pas un webzine, on fait pas de pub dessus, il y a aucun produit. Enfin, il y a une petite boutique pour essayer de monétiser, c'est comme ça qu'on a fait 1,49€, mais où on conseille des livres sur Amazon. Voilà, on a vendu 3 bouquins érotiques et ça nous a fait... mais ce projet, c'est celui qui me... C'est plus qu'un projet, puisqu'on a beaucoup de trafic dessus. Hein. On a... Enfin, beaucoup. Voilà, le site a 1 an et 2 mois. Et on doit être entre 1000 et 1500 vues par jour.
Pour moi, c'est beaucoup, ouais.
Et surtout, dans le podcast d'interview, on a quand même eu 2 actrices de la série, de la série 10%.
Ah, génial.
Voilà, j'ai eu Ambre Larrazé qui a joué avec Alain Chabat, qui intervient dans des vidéos de Cyprien.
Ouais.
On a interviewé les filles de Mike Horn, on a interviewé Marie-Monique Robin, qui est une journaliste qui fait des documentaires sur Arte et tout. Voilà, on a eu des super invités en fait. On a eu la chanteuse Clou.
Okay.
Qui était aux Victoires de la musique. Écoute, ouais, donc tu vois, je m'éclate. En fait, Selkios, c'est mon projet bébé. Là, on est en train de travailler sur un carnet Selkios. On a minimum une maison d'édition qui est intéressée, que je vais rencontrer la semaine prochaine. J'ai une super illustratrice, celle qui est en CDI d'ailleurs. On s'éclate avec les filles. C'est un puits sans fond, comme je te dis, mais je suis sûre qu'on va pouvoir en faire quelque chose et que ça sera un... Je suis sûre qu'on va réussir à en faire un média sympa en France. En tout cas, c'est vraiment notre objectif. Et on a la version, et c'est pour ça aussi que je cherche des monteurs, on a la version audio
Justement, j'allais te la suggérer. Web. Je me suis dit, je vais attendre et je vais lui proposer. Est-ce que tu as pensé à faire la version audio? Mais effectivement, c'est génial.
Oui, oui. Donc, t'écoutes les articles lus par l'équipe de Selkios au lieu de, quand t'as pas le temps de les lire, tu les écoutes.
C'est génial, je suis fan. De toute façon, je mettrai tous les liens dans les notes de cet épisode pour les personnes qui veulent aller découvrir tout ce que tu fais, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais en même temps, moi, je suis très contente d'avoir une femme comme toi qui gère une entreprise pareille. Je trouve ça hyper inspirant, tu vois. Ça envoie un super message. Mais comme j'imagine que tout n'est jamais très rose, c'est quoi tes challenges, tes doutes et tes difficultés du moment? Si t'en as pas...
Au niveau... au niveau personnel ou professionnel, du coup
Comme tu le sens. C'est parce qu'au final, les deux sont un peu liés, je trouve. Notre vie perso et notre vie pro, quand on est chef d'entreprise, voilà, c'est vachement lié, quoi.
En fait, moi, il va y avoir un grand bouleversement dans ma vie parce que, justement, suite à la séparation dont j'ai parlé, il se trouve que moi, je voulais rentrer en France puisque mon ancien compagnon donc, avait un contrat de 3 ans. Qui se terminait au moment de la séparation, donc on était censé rentrer en France. Mais il a prolongé, et comme lui était en CDI et moi freelance, le juge aux affaires familiales a décidé de m'imposer de rester en Nouvelle-Calédonie. Ce qui fait que ça fait 3 ans et demi que je vis sur ce territoire du Pacifique complètement paumé. Depuis 3 ans et demi, je vis là, bloquée. En plus, le Covid n'a rien arrangé, puisque ça fait 2 ans que je ne vois pas mes amis et ma famille. Et en fait, le fait d'être bloquée là dans un environnement que j'ai beaucoup de mal à aimer, puisque c'est même ma prison, entre guillemets, ça fait que j'ai énormément travaillé. Je me suis énormément investie parce que j'avais pas spécialement envie de vadrouiller en Nouvelle-Calédonie, puisque quand on m'y a enfermé, ça faisait déjà plus de 3 ans que j'y étais. Donc... j'avais plus rien à y faire, pour moi j'avais fait le tour puisqu'on était censé rentrer. Et donc aujourd'hui mon plus gros challenge, mes plus gros questionnements, c'est que va-t-il se passer quand je vais rentrer en France, puisque c'est prévu pour l'année prochaine, 2022. Que va-t-il se passer quand je vais avoir près de moi ma sœur, que j'adore, mes cousins, mes parents, mes amis de toujours, avec que j'ai toujours et que j'ai réussi à garder malgré 12 ans d'expatriation, on s'appelle encore tous les mois. Et je me dis que ma vie va peut-être complètement changer et ma relation au travail aussi.
Ça te fait peur?
Oui et non, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé. Mmh. Et que ça sera autre chose. Par contre, j'ai oublié un gros détail, c'est que j'ai fait des études, donc j'ai juste en fait un BTS tourisme et un DU qui vaut pour une licence. Donc aujourd'hui, je suis en train de faire une VAE pour valider un master, dans l'objectif d'entrer en doctorat, de faire une thèse quand je serai en France dans les sciences de l'information et de la communication. Donc c'est peut-être le plus gros challenge à venir. Voilà.
Carrément. En fait, ouais, je trouve ça impressionnant. J'en sais pas pour te mousser, tu vois, mais je trouve que c'est impressionnant tout ce que tu fais. En fait, quand je te vois et je me dis, mais comment je peux me plaindre d'être débordée alors que j'ai qu'un seul truc, quoi. Et j'ai pas d'enfant. Genre, j'ai rien du tout, tu vois, y a que moi. Je me dis, mais c'est pas possible.
C'est...
Non, mais bon. Écoute, non, mais c'est bien, au moins, ça, je trouve que, pour moi en tout cas, ça me fait un bon rappel. Et je le prends pas dans le mode c'est culpabilisant ou quoi, mais vraiment dans le sens, est-ce que je suis pas en train de me limiter, tu vois, dans tout ce que je fais, en pensant que je suis débordée tout le temps sur plein de trucs, alors que ben, j'ai du temps, quoi. Je pourrais aussi lancer des projets qui me font plaisir et, tu vois, faire plein de choses. Enfin, je trouve ça intéressant d'avoir ton retour là-dessus.
Oui, il faut lancer des projets quand on sait qu'on va pouvoir les mener à bien, parce que on croque souvent bien plus que ce qu'on ne peut mâcher. Et après, on se retrouve bien embêté, voilà, dans des situations où on s'engage sur trop de fronts. Moi, cette année, voilà, j'ai dit à plusieurs reprises, je refuse tel projet. Cette année, il y a eu mon livre et on m'a demandé la préface d'un autre. Là, il y a deux carnets pour l'année 2022, mais je vais essayer vraiment de baisser le rythme et de refuser... des projets, quand je dis essayer de refuser, c'est me les refuser à moi-même, hein, parce que mon cerveau m'envoie beaucoup de projets et d'idées.
j'imagine bien. Bon, en tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps d'échanger avec moi et de partager un peu ton histoire et ta position aussi de femme entrepreneur, chef d'entreprise et tous les challenges que ça peut impliquer au quotidien et à la fois dans la société, tu vois. Je pense que c'était un message important à faire passer, donc je suis contente qu'on l'ait fait dans Build Yourself.
Merci beaucoup à toi pour ton invitation, Safia, et merci pour tes questions et ta bonne humeur.
Merci beaucoup, avec grand plaisir. J'espère que cet échange avec Lucie vous aura plu. Je le trouve personnellement hyper important parce que j'espère qu'il va venir déculpabiliser des femmes qui peuvent se reconnaître dans son parcours et dans son expérience. Quoi qu'il en soit, si vous voulez retrouver Lucie, vous pouvez le faire sur sa chaîne YouTube, dont le lien est dans les notes de cet épisode, ou également via son site Formation Rédaction Web, si vous sentez que c'est un métier qui pourrait vous convenir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles et un petit avis positif sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.